Pendant quelques heures, on a pu croire que tout était revenu dans l'ordre, que Trump se contentait de gérer les affaires courantes de la Maison-Blanche et que les droits de douane et les autres tarifs étaient derrière nous. Les volumes se sont littéralement effondrés, l'envie aussi, et le nombre de vues sur les vidéos s'est cassé la figure également. Un peu comme si plus personne ne s'intéressait soudainement à la bourse et aux fabuleux marchés qui sont les nôtres depuis quelques semaines. Et puis Trump s'en est pris aux métaux critiques. Pas si grave, on avait la relaxation sur les voitures qui soulageaient un peu, mais on sentait la méfiance quand même. Et puis, juste après la cloche de clôture, les choses se sont compliquées et on a pris conscience que les frontières du business sont en train de bouger et que les sociétés doivent faire des choix cornéliens, lécher les pompes à Trump ou faire du business en mode mondialisation, avec les conséquences que cela apportera. Le premier à comprendre aura été Nvidia. Je vous explique tout ça en 15 minutes. Pourquoi Nvidia se fait démonter after close? Pourquoi AMD suit le mouvement? C'est quoi un métal critique? Et pourquoi on ne sent pas vraiment cette baisse de l'inflation? Sans oublier le fait que la Chine cartonne économiquement parlant, mais c'était avant. Avant les droits. Bienvenue dans ce Morning Bull et si vous voulez parler finance sans vous endormir, vous êtes au bon endroit. Nous sommes le 16 avril 2025 et je suis Thomas Veillet. Durant un bref instant, lors de la séance d'hier, j'ai eu l'impression que l'intérêt pour les marchés avait donc disparu. Mais pour être franc, j'ai plus l'impression qu'on est en mode embuscade, hein, prêt à tout pour vendre et tout shorter, ou alors tout racheter et refaire du FOMO notre moto. Il paraît en effet peu vraisemblable que Trump se contente d'en rester là et de laisser passer du temps. Il a trop besoin d'être au premier plan et il a trop besoin surtout d'obtenir des résultats concrets pour pouvoir venir devant la presse et dire « Vous voyez, je vous l'avais dit !» Néanmoins, hier, les volumes étaient misérables, mais ça risque de s'exciter un peu plus ces prochains jours, je vous explique. Tout d'abord, hier, on a dû gérer l'aspect des voitures puisque le président avait montré son envie de desserrer les taux sur le secteur. Secteur qui d'ailleurs a bien apprécié la chose, surtout en Europe où la plupart des constructeurs récupéraient plus ou moins 2%. Mais on sentait quand même qu'on se méfiait un peu, vu que Trump peut faire volte-face quand bon lui semble. Les marchés du vieux continent ont donc vécu une séance haussière plutôt intéressante, mais avec des volumes pathétiques qui laissaient à penser que tout le monde était sur la défensive. Et finalement, si on fait abstraction de Trump, il y avait deux gros dossiers. Tout d'abord, la déception de LVMH qui perd son poste de plus grosse capitalisation boursière française et qui se fait passer dessus et passer devant par Hermès et qui ne ressent visiblement pas le même stress ou la même crise sectorielle que son concurrent. Si LVMH, c'est du luxe, Hermès, c'est plus du luxe que LVMH. Donc comme Hermès est plus du luxe, les gens qui ont plus d'argent n'ont pas encore réduit leur train de vie. Bref, LVMH a perdu 7%. Et quand on pense qu'il y a un an, on aurait tué père et mère pour en acheter à 880 euros, ça démontre quand même une fois encore qu'on n'est pas grand-chose dans le monde de la finance et de la perception de la valorisation d'une société. Mais peu importe, entre 480 et 500, je suis quand même tenté de me dire que ça commence à devenir pas cher et intéressant d'un point de vue technique pour jouer un éventuel rebond. L'autre sujet du jour, c'était la BCE. Pour faire simple, alors que Dame Christine envisageait de ne plus baisser les taux momentanément, il y avait encore quelques semaines, juste après le meeting du mois de mars, hier, on a compris que la BCE allait à nouveau baisser les taux cette semaine. La méthode Trump pèse quand même un peu trop lourd pour la croissance européenne qui est déjà au bord du gouffre. Et la BCE ne peut pas se permettre de ne pas aider, de ne pas plonger au secours de l'Europe. Surtout que là, tout de suite, les tensions inflationnistes ne sont vraiment plus une préoccupation. Hier, la France a même annoncé un CPI en baisse à 2,2%. Et ça devrait être du même acabit aujourd'hui en Europe. Pour faire simple, la BCE va baisser les taux, mais son discours restera moins dovish. Et laissera la porte ouverte à toutes les fenêtres. En gros, ils vont aller jour après jour, sachant que la visibilité économique, à l'ère trumpienne, est presque aussi bonne qu'un matin d'octobre dans les rues de Londres. Mais pendant que l'Europe pleurait la déchéance de Bernard Arnault, saluait la baisse des taux et se demandait si l'on pouvait faire confiance à Donald Trump sur le sujet des voitures, spoiler alerte, non, le président américain était déjà passé à autre chose. Depuis hier, et jusqu'à l'ouverture de tout à l'heure, sa préoccupation principale, les métaux rares. Donald Trump vient de se trouver un nouveau dada, un nouveau challenge. Une enquête est lancée pour voir ce que l'on peut faire sur les droits de douane, sur les minéraux critiques importés. Objectif, réduire la dépendance des États-Unis à la Chine. Et si vous vous posez la question, c'est quoi un métal critique? Eh ben, c'est tout simplement ces métaux dont l'économie moderne ne peut plus se passer, mais que personne ne produit vraiment chez soi. En gros, on en a besoin pour faire tourner les smartphones, les voitures électriques, les rafales pour se défendre contre Poutine et charger les Tesla, mais on n'en a pas forcément chez soi, enfin dans nos contrées, et il faut aller les chercher directement chez quelqu'un, et souvent ce quelqu'un, c'est la Chine. Donc le métal est considéré comme critique s'il remplit deux conditions. Tout d'abord, il est essentiel pour des secteurs stratégiques, défense, énergie électronique, transition verte, pour autant que ça existe encore. Et l'autre condition, c'est qu'il doit être à risque, soit parce qu'on en produit très peu, soit parce que l'approvisionnement dépend d'un pays instable ou pas très coopératif, genre au hasard Chine et Russie. Et si vous voulez des exemples pour voir de quoi on parle, eh bien les terres rares, on peut déjà citer les néodymes, le dysprosium, etc., etc. Ça c'est pour les aimants des éoliennes et les moteurs électriques, le lithium pour les batteries, le cobalt pour les batteries aussi, le nickel pour les batteries et pour l'acier inoxydable, le gallium et le germanium pour les composants électroniques et l'uranium. Oui, bon, l'uranium, je pense que vous savez pourquoi c'est. Alors pourquoi est-ce que c'est si critique? Eh bien parce que si l'approvisionnement d'un seul de ces métaux est coupé du jour au lendemain, guerre, embargo, restrictions à exportation, droits de douane, eh bien c'est toute la chaîne industrielle qui risque de capoter. Tesla, Airbus, Apple, l'armée, enfin tout le monde va commencer à paniquer. Alors pour faire simple, métal critique égale métaux indispensables plus approvisionnement fragile égale gros stress géopolitique égale Trump s'en mêle et je veux même pas savoir ce que ça va donner, mais Washington réalise enfin que son économie tourne avec des matières qu'elle ne maîtrise pas vraiment de bout en bout. L'Amérique découvre un tout petit peu tard qu'elle a laissé filer des ressources clés et maintenant Trump veut taxer pour regagner le terrain perdu. Pas sûr que ça suffise, ou alors il faudrait simplement annexer le Groenland et l'Ukraine. Mais en attendant, c'est encore une nouvelle étape dans sa guerre avec la Chine. Trump a d'ailleurs également proposé à la Chine hier de se bouger un peu pour faire des propositions afin de régler ce conflit douanier. Et soudainement, le président semble vouloir tendre la main. Le problème, visiblement, c'est que Xi, lui, il a pas vraiment envie de la prendre. Pour le moment, en tous les cas. Hier, les indices américains ont donc terminé légèrement en baisse, comme si on avait envie d'y aller, mais qu'il y a quelque chose qui nous empêchait d'aller de l'avant. La peur, sans doute.
Je sais pas si moi, tiens, de te casser la gueule, tiens.
La trouille, non?
Ouais, ça doit être ça, Laurent.
La peur d'un nouveau dérapage douanier de la part de Trump. Et les droits de douane et la problématique avec la Chine restent clairement le centre du monde. Il suffit de regarder ce qui s'est passé hier sur les semi-conducteurs après la clôture à 22h et des poussières. Hier soir, Nvidia a annoncé qu'il prenait une charge exceptionnelle de 5,5 milliards. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a quelques temps, la société avait développé des puces qui se nomment H2O et elles étaient spécialement conçues pour contourner les restrictions Biden en direction de la Chine. Mais pas de bol, dorénavant ces puces nécessitent une licence d'exportation que Washington, bien sûr, n'a aucune intention de leur accorder. Résultat, invendu en stock, commande annulée, inventaire à la casse. Bref, la Chine représente encore 13% des ventes de Nvidia jusque-là et là, bam, c'est quasi fini. Et pendant ce temps, Huawei se frotte les mains, on lui offre le marché chinois de l'intelligence artificielle comme sur un plateau. Ironie du sort, pendant qu'on lui coupe les vivres sur la Chine, Nvidia a également annoncé un méga investissement de 500 milliards aux États-Unis, histoire de rester dans les petits papiers de Donald Trump. Le titre s'est donc pris soigneusement 7% dans les dents after close et a emmené AMD et Broadcom avec lui. Les analystes vont devoir ressortir leur modèle mathématique et voir ce que ça va donner sur les projections des ventes sur les 10 prochaines années. Mais ça sera sûrement revu à la baisse. À court terme, clairement, c'est douloureux. Mais à moyen terme, c'est encore pire puisque c'est un changement de paradigme. Le message est très clair. La tech américaine va devoir choisir entre vendre au monde entier ou rester pote avec la Maison Blanche et son locataire. À moins que Trump nous fasse encore un 180 degrés d'ici la fête du travail. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, ce matin, ASML a publié ses chiffres trimestriels. Commençons par la bonne nouvelle. ASML reste optimiste pour 2025 et 2026, mais avec quand même un sacré nuage noir au-dessus de la tête. Un nuage noir, ça c'est la moins bonne nouvelle, qui s'appelle les droits de douane, made in Donald Trump, oui, encore. Le patron d'ASML confirme que la croissance est en vue. Assez loin, mais on veut, dans le brouillard, sauf que l'incertitude vient de monter d'un cran. Résultat, les clients hésitent, et ça se voit, et les commandes sont en train de se péter la figure à 3,9 milliards d'euros, alors que le marché, les analystes, les experts, attendaient 4,9 milliards, 1 milliard d'écart. Moralité, quand Trump éternue, même les fondeurs hollandais attrape la grippe. Je ne sais pas encore où est-ce que ASML va ouvrir, à l'heure où je tourne, c'est en train d'ouvrir, mais on vous l'a dit et répété, ce trimestre, eh bien, c'est pas les chiffres qui vont compter, c'est surtout les prévisions du management. Et ce matin, ASML en est clairement la preuve. Et pire, Dans l'environnement actuel, personne n'osera se montrer optimiste pour l'avenir. Faudrait être fou. D'abord, ils n'en savent rien, et encore plus rien que d'habitude. Donc si Trump persiste, dans le meilleur des cas, ils en prennent plein la gueule. Et dans le cas où Trump devient plus magnanime, au pire, les attentes du marché seront faciles à battre lors du prochain trimestre. Partons maintenant en Chine. Ce matin, très tôt, la Chine a sorti son PIB, et c'est plutôt pas mal. Plus 5,4% de croissance au premier trimestre. Bien, bien mieux que prévu. Tout le monde applaudit, sauf les marchés qui eux font la gueule comme si on leur avait servi du riz tiède et des raviolis vapeur vegan à la place des crevettes. Derrière ce feu d'artifice, il existe une réalité qui fait très mal. Les tarifs made in Trump. Oui, encore eux. Parce que ces derniers n'ont pas encore frappé et n'ont pas d'influence sur les chiffres qui viennent d'être publiés il y a quelques heures. Alors autant dire que si la situation actuelle avec 145% de droits de douane ne change pas rapidement, et les prochains tarifs, les prochains chiffres qui seront publiés par la Chine n'auront pas vraiment le même panache, et tout ça pourrait vite tourner en un ouragan de catégorie 4 ou 5. À l'œil comme ça, hein. Pour le moment, les ventes de détail s'envolent en Chine, plus 5,9%. L'industrie tourne à fond, plus 7,7%. Ce qui démontre que le stimulus interne mis en place par le gouvernement fonctionne. Mais les économistes préviennent, et je vous le répète, c'était avant les droits de douane. Et maintenant, les exportations, elles risquent de plonger, et la croissance aussi. L'avenir est donc très très flou et la relance devient urgente. Le stimulus ne suffira pas. Pékin pourrait donc sortir la planche à billets ou couper les taux pour éviter de finir l'année à 3% de croissance. Mais est-ce que cela suffira? Et surtout, est-ce que Trump va les emmener jusque-là? Pour le moment, c'est le dernier rayon de soleil avant l'hiver qui pourrait durer des mois si on ne trouve pas de solution ou si on n'ouvre pas des vraies négociations. Et puis autrement, il y a une vie en dehors des droits de douane, des métaux critiques et des semi-conducteurs, et ça s'appelle les chiffres du trimestre. Hier, nous avons eu Citigroup, Bank of America et Johnson & Johnson, pour les plus importants, bien sûr. Alors, pour ce qui est de Citigroup, on pourrait résumer son trimestre en disant « Quand la volatilité fait peur aux investisseurs, elle fait le bonheur des traders. » Citigroup a surfé sur les montagnes russes du premier trimestre avec des commissions de courtage qui ont explosé et un bénéfice qui était au-dessus des attentes. Moralité, quand ça tangue, il y a toujours un gars qui vend des gilets de sauvetage. Le titre finissait sa journée en hausse, pas dans une grosse euphorie, mais en hausse quand même. Chez Bank of America, on s'en sort plutôt pas mal, merci pour elle, bénéfice en hausse de 11%, un consommateur qui tient encore debout pour le moment, et un joli 7,4 milliards qui tombe dans les escarcelles de la banque. Le marché a bien aimé et le titre prenait plus de 3% hier. Quant à Johnson & Johnson, malgré leurs problèmes juridiques, ils font toujours du chiffre. Résultats supérieurs aux attentes, le rachat d'Intracellular Therapy qui leur a coûté 15 milliards devrait leur permettre de bien finir l'année après l'intégration. Et d'ailleurs, le chiffre d'affaires annuel a été relevé à 91,8 milliards. Le marché, lui, s'en fichait totalement, un peu à l'image de l'ambiance d'hier. On a envie, mais là, tout de suite, on n'ose pas. Autrement, on notera que Jefferies a baissé son objectif sur le S&P 500 de 6000 à 5003. Ça n'est pas le premier à le faire, et ni le dernier. On sent déjà que l'incertitude des droits de douane commence à peser sur les prévisions annuelles. Deutsche Bank est encore à 7000, donc je vois bien une correction prochainement. Pour le reste, on aura le CPI en Europe, les ventes de détail et la production industrielle aux States. Il y aura aussi le Business Inventories et les inventaires pétroliers et le fameux GDP Now de la Fed d'Atlanta. Et puis surtout, à 19h15, ce soir, il y aura Powell qui va parler. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce que son intervention pourrait déclencher. On sait qu'il ne va pas se laisser influencer par les coups de boutoir de Donald Trump, mais il va devoir aborder le problème de l'inflation qui baisse et des taux qui, eux, ne baissent pas. Et le fait que les tarifs vont régénérer de l'inflation comme excuse, ça ne suffira pas. Au moins, je suis certain d'une seule chose dans tout ça, c'est qu'il y aura des choses à raconter demain. Et puis alors, à propos du CPI, hier, j'ai vu un ministre français à la télé qui faisait cocorico parce que l'inflation revenait autour des 2%. Et d'ailleurs, un peu partout, on crie victoire. L'inflation est à 2,2%, on a gagné! Sauf qu'on oublie un tout petit détail. Je trouve qu'on l'oublie un peu trop souvent. Un détail qui fait quand même assez bobo, j'ai envie de dire, puisque depuis le début de la guerre contre l'inflation 2021-2022, les prix à la consommation, ils ont grimpé entre 25 et 30% selon les secteurs. Et pendant ce temps-là, les salaires, ils ont regardé passer le train comme une vache dans son champ. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien d'entre vous ont eu une augmentation de 30% ou plus ces 4 dernières années. Bref, résultat, le consommateur moyen s'est appauvri, vraiment appauvri, et massivement appauvri. Petit exemple aux USA, où dorénavant, vous pouvez trouver des parking surveillé par des vigiles où vous pouvez aller garer votre voiture et dormir dedans. Alors ça, c'est sûrement un signe comme quoi tout va super bien. Alors oui, félicitations à tous ceux qui se félicitent d'avoir calmé l'inflation sur les 12 derniers mois, mais ça revient quand même un tout petit peu à dire « Le feu est éteint ! Le feu est éteint ! Le feu est éteint !» en oubliant tout simplement que la maison, elle est déjà complètement cramée. Et dans une économie qui ralentit, où la récession guette et où la stagflation vous fait signe depuis le coin de la rue, cet affaiblissement du pouvoir d'achat risque de faire mal à un certain moment, même très mal. Si la fête de l'inflation est finie, l'addition, elle, eh bien, elle est visiblement en train d'arriver. Bon, sur ces bonnes nouvelles et sur cette ambiance festive, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter et puis surtout, de la partager. Allez, belle journée. Bye bye.